C'est tout simplement parce que il est bon peut-être d'avoir eu cette instruction, pour certaines d'entre vous au moins, avant de prendre les résolutions. Donc c'est pour ça qu'on l'a vu avant de traiter de choses qui nous rapprocheront de notre Seigneur d'une autre manière. La femme chrétienne aussi nous rapproche de notre Seigneur. Le modèle de la femme chrétienne, c'est la Sainte Vierge. Alors maintenant, nous revenons à notre Seigneur. Notre Seigneur dans sa passion. C'est un sujet qui est vaste, c'est un sujet qui est très important, et c'est un sujet que je voudrais vouloir insérer dans les instructions précédentes, en rapport avec les instructions précédentes. Donc je voudrais vous montrer que ça n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe, paf, d'un coup, la passion. C'est vraiment avec l'intention de vous aider justement dans vos résolutions aussi, cette instruction sur la passion. Et pour cela, je vais vous montrer ce que l'Église dit de la passion de notre Seigneur. Comment l'Église voit la passion de notre Seigneur. Les collectes des messes, collecte, c'est bien de colligere en latin qui veut dire rassembler. La collecte de la messe rassemble, réunit ce que l'Église veut nous voir, les sentiments qu'elle veut nous voir exprimer au cours de la messe. Et le dimanche des rameaux, justement, le dimanche où donc nous méditons spécialement la passion de notre Seigneur, puisque ce jour-là, on chante la passion de notre Seigneur, l'Église dit ceci. Dieu Tout-Puissant et Éternel, vous avez voulu que notre Sauveur se revêtît de notre chair et souffrit le supplice de la croix, afin de donner au monde un modèle d'humble soumission. Faites qu'utilement instruits par sa patience, nous méritions d'avoir part à sa résurrection. Donc les deux éléments qui sont ici intéressants dans cette collecte, c'est qu'on voit que l'Église nous propose notre Seigneur comme modèle. Modèle d'humble soumission. Nous avons beaucoup de mal à être soumis. Nous avons beaucoup de mal à nous soumettre. On vous a parlé de l'obéissance. L'obéissance du côté du subordonné suppose la soumission. Cette soumission nous est difficile. Alors, pour faciliter cette soumission, l'Église nous propose un modèle. Ce modèle, c'est notre Seigneur. Et spécialement notre Seigneur dans sa passion. Et ensuite, elle ajoute, « Faites qu'utilement instruits par sa patience, nous méritions d'avoir part à sa résurrection. » Donc, la vue de notre Seigneur dans sa passion doit nous amener à la soumission et doit nous amener à la patience, donc à l'acceptation, au support des contrariétés de la vie. Et ensuite, et j'arrêterai là comme introduction, la collecte du lundi saint également nous donne un nouvel éclairage sur la façon d'approcher la passion de notre Seigneur. Cette vue de la passion pourrait peut-être, chez certains ou certaines, entraîner une certaine tension intérieure en étant, choqué, enfin en étant en tout cas très touché, affecté par les souffrances physiques de notre Seigneur. Alors il ne faut pas que cette passion produise en nous une tension intérieure, ce n'est pas ce que l'Église demande. L'Église nous dit en effet, le lundi saint, Dieu Tout-Puissant qui voyait notre faiblesse, que notre faiblesse succombe au milieu de tant d'épreuves, faites-nous respirer un peu par les mérites de la passion de votre Fils unique. Donc le but, ce n'est pas de nous accabler à la vue de cette passion, mais au contraire de nous aider à respirer, à reprendre des forces, à nous reposer encore dans les plaies de notre Seigneur. Donc c'est de cette façon-là qu'il faut approcher, je pense, le mystère de la passion. Alors, cette méditation sur la passion, je vais me contenter de reprendre les évangiles et de commenter un petit peu les passages des évangiles. Donc il y a toujours un danger à vouloir recourir à des des auteurs mystiques, surtout quand c'est des mystiques qui ne sont pas reconnus, pour essayer d'alimenter notre imagination, pour essayer d'en savoir plus toujours sur la passion de notre Seigneur. Dieu, dans les évangiles, nous raconte la passion de son Fils. Et si Dieu nous raconte cette passion de son Fils, il nous dit ce qui est suffisant pour alimenter notre foi. Donc l'évangile, ce n'est pas un livre qui a pour but de satisfaire notre curiosité, c'est un livre qui a pour but d'alimenter notre foi. Et donc aussi, je pense qu'il faut savoir respecter le silence de Dieu dans l'évangile, et donc ne pas vouloir en rajouter. Et là, il y a un danger, je pense, de recourir, comme je vous dis, à des tas de livres qui vous donnent des détails supplémentaires, qui ne sont pas, en tout cas, de foi, et qui parfois même n'ont pas été reconnus par l'Église. Donc là-dessus, il faut être très prudent. Et je pense, par contre, que tous les détails, malgré tout, alors là, à l'inverse, qui sont dans les évangiles, il importe de les saisir, de les reconnaître et de voir quels fruits on peut en tirer pour notre vie spirituelle. Parce que justement, on a tendance nous-mêmes à faire l'inverse, si vous voulez. On lit les évangiles un petit peu rapidement, à la va-vite, et puis ensuite, alors, on va prendre un petit livre de piété pour alimenter notre curiosité. Donc je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut essayer de, à la lumière toujours de la tradition, bien sûr, comme Monseigneur le rappelait à midi, mais de voir les textes des évangiles en eux-mêmes, tels que Dieu nous les rapporte. Parce que l'évangile, c'est la parole de Dieu. Donc c'est Dieu le Père, enfin c'est Dieu et le Saint-Esprit qui sont l'auteur des évangiles. Il faut savoir que l'hagiographe, donc les écrivains sacrés, les évangélistes, ne sont pas la cause principale des évangiles. Ils ne sont qu'une cause instrumentale. Donc l'auteur principal des évangiles, c'est Dieu. Lorsque j'écris avec un stylo à encre, l'instrument qui me sert pour écrire, c'est le stylo. Mais la cause principale, c'est moi, c'est l'homme. Et bien de la même manière que le stylo n'est que l'instrument, de la même manière les évangélistes ne sont que les instruments entre les mains de Dieu. La différence, bien sûr, qu'il y a entre les deux, c'est que l'instrument du stylo est un instrument qui est inconscient, tandis que l'instrument humain est un instrument conscient et libre. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, Saint Luc, comme médecin, va donner certains détails que ne donnent pas les autres. Mais la Sainte Écriture est essentiellement, avant tout, la parole de Dieu. Donc c'est Dieu qui nous parle. Donc voyons ce que Dieu nous dit, ce que Dieu le Père nous dit de la passion de son Fils. Tout d'abord, commençons, donc nous ne verrons pas tout parce que c'est un sujet qui est trop vaste, donc je vais simplement prendre des passages. On va commencer par l'agonie, la prière de notre Seigneur et l'agonie au jardin de Gethsémani. Donc notre Seigneur, après le discours, après la scène, le soir du jeudi saint, il se rend au jardin des Oliviers. Et il va au-delà du torrent du Cédron, et Saint Jean précise « lieu où il a coutume d'aller ». Saint Jean, chapitre 18, versets 1 et 2. Donc, au temps de l'épreuve, notre Seigneur ne change pas ses habitudes. Notre Seigneur reste fidèle à ses prières. Alors que nous-mêmes, souvent dans l'épreuve, eh bien, on abandonne tout, au moins on a la tentation de le faire. Notre Seigneur, lui, nous montre la fidélité dans l'épreuve. Alors Jésus vint avec eux dans un domaine appelé Gethsémani. Gethsémani, étymologiquement, signifie pressoir à huile. L'huile, vous le savez, c'est le symbole de la charité. Et c'est par charité, c'est par amour que notre Seigneur endure sa passion. Donc le lieu même de son agonie montre le rapport qu'il va y avoir entre ses souffrances qu'il va endurer et la charité qui est dans son cœur. Et par ailleurs, nous le savons, les sacrements sont sortis des plaies sacrées de notre Seigneur. C'est ce que dit Saint Jean, qui a vu sortir du côté de notre Seigneur du sang et de l'eau. L'eau est le symbole du baptême, le sang est le symbole de la Sainte Eucharistie. Donc les sacrements sont le fruit de la passion de notre Seigneur. Et justement, l'huile apparaît comme matière et du sacrement de baptême, l'huile des catéchumènes, et du sacrement de l'ordre, l'huile des catéchumènes également que l'évêque met pour l'onction des mains du prêtre. Et puis, vous avez l'huile qui sert encore pour le Saint-Crème, pour la confirmation, et également pour l'extrême-onction. Donc là encore, le lieu même où notre Seigneur subit son agonie est un manifeste, le fruit de sa passion, à savoir les sacrements. Donc ne détachons pas la vue des souffrances de notre Seigneur, du fruit de ses souffrances, à savoir le salut de nos âmes, et spécialement les sacrements qui nous ouvrent l'entrée à la vie chrétienne, et puis ensuite même, par le sacrement d'extrême-onction, l'entrée au ciel, si on est bien disposé. Asseyez-vous ici pendant que j'irai là pour prier. Donc notre Seigneur dit à ses apôtres de rester là pendant qu'il va prier. Donc notre Seigneur désire se recueillir. Sa passion, c'est son heure. Quand notre Seigneur dit « Mon heure n'est pas encore venue », mon heure, c'est l'heure de sa passion. Et quand on a quelque chose d'important à faire, on désire s'isoler, on désire se recueillir. Et c'est ce que notre Seigneur fait ici. Sachant que l'heure est arrivée pour lui de donner sa vie pour nous, il désire s'isoler, il désire se recueillir. Donc quand nous savons que nous avons quelque chose d'important à faire, prenons le temps, comme notre Seigneur, de faire le silence extérieur et intérieur pour puiser les forces nécessaires pour accomplir notre tâche. Ayant pris avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, donc Jacques le Majeur, le premier martyr, et puis Saint Jean, la présence de ces trois apôtres, là aussi, est pour nous une indication. Ce sont les trois qui ont été témoins de la transfiguration, donc les trois qui ont vu la gloire de notre Seigneur transfigurée. Ce sont les trois aussi qui ont été témoins de la première résurrection opérée par notre Seigneur. Notre Seigneur a opéré trois résurrections en étant sur la terre. Et la première résurrection, c'était la résurrection de la fille de Jaïr. Ces trois disciples ont été témoins de cette résurrection. Pourquoi cela? Eh bien justement, ces grâces extraordinaires avaient pour but de leur donner la force nécessaire pour pouvoir supporter la vue de notre Seigneur dans son agonie. Donc lorsque notre Seigneur nous donne des grâces de douceur, de paix, c'est dans le but de nous fortifier pour le temps de l'épreuve. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne succombiez pas à la tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il priait. Donc ça c'est très important, ça revient souvent dans ce passage de l'agonie. Notre Seigneur nous invite à la prière. Priez pour ne pas succomber à la tentation. Si dans quelques instants Pierre va trahir notre Seigneur, c'est parce qu'il n'a pas su prier au moment de l'agonie, parce qu'il dormait. Et si notre Seigneur, au contraire, aura le courage d'aller au-devant de sa passion, c'est justement parce qu'il priait. Et non seulement il nous demande de prier, mais il montre l'exemple. S'étant mis à genoux, il priait. Et c'est là que notre Seigneur va rentrer dans son agonie. Saint Matthieu, chapitre 26, verset 37. « Il commença à être attristé et affligé. » Donc, premier sentiment de notre Seigneur ici, la tristesse. Précise ou ajoute en disant « Il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. » Donc, anxiété de notre Seigneur. Le verset suivant, encore en Saint Matthieu, qui va préciser encore. Alors il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Dans le texte grec, on dit, mon âme est entourée de tristesse. Et puis enfin, notre Seigneur ajoute, demeurez ici, éveillez avec moi. Donc tristesse de notre Seigneur, anxiété de notre Seigneur. Et celui qui est anxieux, il a besoin de quelqu'un près de lui. Et on voit comment est-ce que notre Seigneur, justement, ici, alors que tout à l'heure il voulait s'isoler, maintenant il demande à ses trois apôtres de rester avec lui. Donc notre Seigneur a connu l'angoisse. Il a accepté l'humiliation de la peur. Et il a voulu montrer cette humiliation. Nous-mêmes, en général, quand on est humilié, on cherche à s'esquiver, à se cacher. Notre Seigneur, lui, veut montrer cette humiliation à ses apôtres. Et en même temps, il veut être aidé par nous. Il demande à ses apôtres, à ses préférés, de rester là près de lui. Donc notre Seigneur veut être aidé par nous. Ça reste un mystère, bien sûr, qui pourrait très bien se passer de nous, mais il veut avoir besoin de nous. On le verra encore le lendemain, le vendredi saint. Il voudra être aidé par Simon de Cyrène. Et c'est ce qui apparaît ici aujourd'hui. Quelles sont les causes de cette agonie de notre Seigneur? Eh bien, il y a deux causes. La première cause, c'est la mort et les souffrances. Donc ça, c'est très important pour nous à considérer. On pense souvent que notre Seigneur souffre des péchés des hommes, et c'est vrai, et c'est le motif sans doute principal même de ses souffrances, mais notre Seigneur aussi souffre à l'idée de mourir, parce que la mort n'est pas naturelle à l'homme. Et il souffre à l'idée des souffrances qu'il devra endurer, parce que notre Seigneur connaît parfaitement toutes ses souffrances. Il les a devant les yeux. Et donc la vue de ses souffrances, eh bien, sont pour lui source d'angoisse. Donc ça, c'est très important parce qu'on se fait parfois une idée fausse de l'humanité de notre Seigneur. On entend parfois même des fidèles dire « Oui, mais lui, c'était notre Seigneur, donc il était Dieu, donc bon, ça allait, quoi, c'était pas difficile pour lui. » Notre Seigneur était Dieu, certes, mais il était homme, et il était pleinement homme. Et en tant qu'homme, il a voulu passer par toutes les souffrances, tous les genres de souffrances que connaissent les hommes. Il l'a voulu pour nous mériter le ciel, et il l'a voulu pour sanctifier nos propres souffrances. Donc il n'y a pas un genre de souffrance que notre Seigneur n'ait voulu embrasser. Pour nous aider, nous-mêmes, à accepter de passer par là où il désire nous voir passer. Et pour faire en sorte que ces épreuves soient pour nous source de grâce et source de salut. Ensuite, Saint Marc dit « Procedit super terram ». Il tomba la face contre terre. Donc c'est un signe ici d'abattement, un signe de détresse. Et en ce moment-là, notre Seigneur fait cette prière « Mon Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. » Possible, dit lui, ça c'est Saint Matthieu, « Mon Père, tout vous est possible, transportez ce calice loin de moi. » Ce calice, c'est le calice de sa passion. Donc ça montre que la cause de sa souffrance, c'est bien la vue des souffrances qu'il va endurer et de sa mort. Donc notre Seigneur ici demande s'il est possible d'éloigner en fait l'heure de son sacrifice. Il ne demande pas que ce sacrifice n'ait pas lieu, il demande simplement de l'éloigner, qu'il s'éloigne de moi. Notre Seigneur sait très bien qu'il devra passer par là. Mais nous-mêmes, oui, en tant qu'homme, on réagit de la même manière. Quand on sait qu'on a un moment difficile à passer et qu'on doit y passer, eh bien, si vous savez que vous êtes malade et que vous devez passer sur une table d'opération, le docteur vous dit, si vous ne souffrez pas trop, en tout cas, au moment où ça se passe, si le médecin vous dit, vous avez le choix entre un mois ou deux mois, en général, vous choisirez plutôt deux mois. Enfin, moi, je pense, moi, c'est ce que je ferai, en tout cas. Et donc, c'est ce qui apparaît ici. Notre Seigneur, en tant qu'homme, il réagit en homme et il demande, s'il est possible, que son Père éloigne le moment de son sacrifice. Mais il sait très bien qu'il devra y passer. Et il ajoute, cependant, qu'il en soit fait, non pas comme je veux, mais comme vous le voulez. Donc la première partie, si vous voulez, c'est la partie de la sensibilité de notre Seigneur et même de tout son être, à l'exception du sommet de son âme, qui adhère à la volonté de Dieu. Et donc il se peut que nous-mêmes, au moment des épreuves, ce soit pareil. Qu'on soit comme dans le brouillard le plus total, sauf la fine pointe de l'âme, comme dit saint François de Sales, qui reste, qui adhère d'une façon même parfois insensible à la volonté de Dieu. Donc notre Seigneur n'était pas un surhomme ou une espèce de héros qui aurait pu passer par les souffrances et la mort sans éprouver quelques sentiments de crainte ou d'angoisse. Il a voulu connaître la crainte et l'angoisse. Et ici, saint Luc, qui était médecin, va nous donner des précisions sur les effets physiques de cette angoisse de notre Seigneur. Il dit « Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre ». Et puis ensuite, alors, il vint vers ses disciples, les trouva endormis, et dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Il s'en alla une deuxième fois, il fait la même prière. Il revint de nouveau, il les trouve endormis. Il les quitte, et il s'en va une troisième fois. Donc ces va-et-vient de notre Seigneur sont encore un signe de l'angoisse. Quand on est angoissé, on ne sait pas où se mettre. On se déplace, Je l'ai remarqué dans mon ministère. Un jour, je suis allé appelé par une infirmière voir un de mes fidèles qui était justement en proie à une angoisse. Et avant de raconter donc cet aspect-là, pour que vous connaissiez ce fidèle, c'était un fidèle qui avait à peu près 70 ans, autant que je me souvienne. Il n'est pas 70 tout à fait, mais il approchait les 70 ans. Et il avait un cancer qui se généralisait. Bon, il savait que c'était irréversible et en fait, il était prêt à mourir. Et il m'a dit, il était vraiment prêt à mourir, même il désirait la mort. On peut dire qu'il désirait la mort. Et connaissant son état, je vais le voir. C'est son épouse donc qui me demande d'aller le voir. Et avec son épouse, ils ont toujours été quand un disait blanc, l'autre disait noir. Enfin, c'est peut-être assez classique, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, dans cette famille, c'est comme ça que ça se passait. Et donc, on arrive à la clinique avec son épouse. Et puis alors elle, auprès d'elle, j'insiste en disant, là, le sacrement des malades, enfin l'extrême onction, ça ne fait pas mourir. Donc je lui raconte des tas de cas ou de personnes qui sont en super forme maintenant, qui ont reçu l'extrême onction. Bon. Et alors, elle, fort de cela, elle arrive vers son mari, elle dit, l'extrême onction, ça ne fait pas mourir, hein, pas du tout. Hein. C'est pas d'ailleurs parce que tu vas mal qu'on demande l'extrême onction, tu vas plutôt bien. Donc, alors lui, en ce moment-là, à l'inverse, il disait, oui, alors monsieur l'abbé, justement, ça tombe très bien que vous donnez l'extrême onction parce que je voudrais qu'on règle quand même dès maintenant la question des obsèques. Alors, est-ce que vous accepteriez de venir dans l'église, dans une église, dans la région de Lyon, pour l'enterrement ? « Mais non, mais tu vas pas si mal que ça !» lui disait son épouse. « Chut, tais-toi !» Et alors, est-ce que ensuite vous accepterez bien de venir aussi jusqu'au cimetière, quand même, j'espère ? Donc, il donnait tous les détails, mais comme s'il s'agissait d'une tierce personne. Et alors, je lui dis, moi, je veux bien, mais seulement à une condition, c'est que le curé sache bien qui je suis, parce que moi, je veux pas, le jour de l'enterrement, me retrouver en disputant avec ce curé. Bon. « Oh, mais ne vous inquiétez pas, on va voir ça. » Donc, il avait une fille qui était moderniste, et à qui il a chargé d'aller voir le curé pour demander qu'il fasse que la messe, que soi-même qui célèbre la messe. Donc, elle va voir le curé, et il lui dit, ben voilà, il y a mon père qui va très mal, il va mourir bientôt, et il voudrait que ce soit M. l'abbé Troidec, qui est un prêtre de la fraternité Saint-Pidis, qui célèbre la messe. Alors le curé qui dit, non, pas question. Alors elle, en ce moment-là, se met dans tous ses états, elle dit, comment, c'est pas possible, vu tout ce que mon père a fait ici pour la paroisse, en tout cas, si vous refusez, moi je m'arrangerai pour aller voir le maire, on aura la salle municipale, et vous savez que mon père est quand même assez connu dans le village, et vous allez voir, ben d'abord, je ne peux pas vous donner une réponse tout de suite. Comment vous allez me faire ce coup-là? C'est quand mon père sera mort, vous allez me dire non. Moi, je veux une réponse tout de suite. Alors le curé dit, bon, moi je veux bien, mais à une seule condition, c'est que je ne veux pas voir ce prêtre le jour de l'enterrement. Oh ben très bien, j'avais pas envie de le voir ce prêtre, donc ça tombe très bien. Donc le temps passe, et puis justement, ce brave homme connaît donc cette angoisse terrible. Et donc l'infirmière donc m'appelle, et puis en attendant que son épouse arrive dans l'endroit où elle se trouvait. Donc ça faisait à peu près 1 heure, donc moi je reste à peu près 1 heure avec lui. Et puis il me serrait les mains très fort, il voulait pas que je le lâche. Et puis finalement, après, ben, j'étais pris par mon ministère, et juste à ce moment-là, voilà son épouse qui arrive. Alors son épouse qui arrive, il dit, quand même, t'es chrétien, tu dois supporter ça quand même d'une autre manière. Le pauvre, il était là dans son agonie. Jusqu'au bout, chaque fois qu'un disait blanc, l'autre disait noir. Après, je les ai laissés. Et puis finalement, au bout de 2 ou 3 jours, bon, il y a eu le mieux de la fin, si vous voulez, ce qui arrive souvent. Et puis il a fini par rendre son âme à Dieu, et donc j'ai pu célébrer la messe de funérailles dans cette église, qui était pleine à craquer. Et c'était assez émouvant. Donc ça, c'était pour vous expliquer, oui, ce que j'ai rencontré au niveau de l'angoisse, et le fait que l'angoissé, donc, a besoin de quelqu'un. Notre Seigneur a voulu qu'il y ait ses apôtres près de lui. Et puis également, il ne sait pas où se mettre. C'est ce qui apparaît. Donc, en voyant comment notre Seigneur réagit face à la souffrance, on ne doit pas être nous-mêmes surpris de connaître parfois la frayeur et l'angoisse face à certaines souffrances que le bon Dieu peut vouloir que nous éprouvions. Également, en demandant à son Père s'il est possible d'éloigner ce calice, il est tout à fait possible que nous-mêmes nous fassions cette prière. Mais il faut essayer d'être capable de dire la deuxième partie, non pas comme je veux, mais comme vous voulez. Et autant notre Seigneur est accablé dans son agonie, autant ensuite il doit paraître fort au moment de la passion elle-même. Et cela apparaît justement parce qu'il a pris des forces dans la prière, il est maintenant prêt pour son sacrifice. Et c'est ainsi qu'il dit, levez-vous, allons, voici que celui qui me trahira approche. Donc on voit ici cette force d'âme, cette magnanimité de notre Seigneur qui va au-devant de ses bourreaux. Et ici, il est intéressant à noter que notre Seigneur dit, voici que celui qui me trahira approche. Il ne dit pas, voici qu'une troupe de soldats vient pour m'arrêter, mais celui qui me trahira. Donc notre Seigneur, dans tous ceux qui viennent l'arrêter, ne voit qu'une seule personne, Judas. Judas qui était l'un des siens. Judas qu'il avait choisi. Donc il ne faudrait pas considérer, vous voyez, en voyant Judas, que notre Seigneur aurait choisi 11 bons et un mauvais, pour qu'il puisse avoir le rôle à jouer au moment de sa passion. Notre Seigneur a choisi Judas en raison de ses qualités humaines, et même de la générosité qu'il a dû avoir en ce moment-là. Ensuite, il lui avait confié le rôle de... Il s'occupait de la gestion. En général, quand on a une entreprise, celui qui s'occupe de la gestion, ce n'est pas celui qui est le plus dénué de talent. Non, c'est quelqu'un, un homme d'ordre, un homme honnête. Et donc, Judas avait donc certains talents, des talents certains même, au niveau naturel. Mais seulement, on va voir que petit à petit, donc, il a laissé son cœur... donc il s'est fait avoir il recherchait un messie temporel, il avait une idée d'un messie temporel, et en voyant que le règne de notre Seigneur était un règne spirituel, il a vu finalement que notre Seigneur ne cadrait pas avec sa façon de voir, et au lieu de changer sa façon de voir en disant ma façon de voir ne correspond pas avec celle de Dieu, il faut que je change ma façon de voir pour qu'elle corresponde avec celle de Dieu, il a préféré conserver cette attache qu'il avait avec sa façon de voir. Et finalement, c'est ainsi qu'il s'est détaché de notre Seigneur et qu'il en est arrivé jusqu'à trahir notre Seigneur. Donc notre Seigneur est vraiment affligé de voir que c'est l'un des siens qui le trahit. Et ensuite, il est affligé par le mode de la trahison, par un baiser. Le baiser qui est normalement le signe de l'amitié, le signe de l'union, c'est ce signe-là que Judas utilise pour trahir notre Seigneur. Et s'il l'utilise, bien sûr, c'est pour éviter que les apôtres qui sont autour ne voient que notre Seigneur vient trahir son maître. Et c'est en même temps pour que les autres comprennent que c'est lui notre Seigneur. Celui que, à qui je donnerai le baiser, c'est lui. Saisissez-le. Et on voit que notre Seigneur est affligé par cet acte de Judas, parce qu'il lui dit: mon ami, pourquoi es-tu venu? Tu trahis le Fils de l'homme par un baiser. Donc, indignation de notre Seigneur. Et pour 30 pièces d'argent, donc pour une somme ridicule. Et ensuite, la mort de Judas. Judas, voyant qu'il était condamné, poussé par le repentir, rapporta les 30 pièces d'argent aux princes des prêtres et aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Donc on dit qu'il est poussé par le repentir, on dit qu'il rend l'argent, mais alors il a fait tout ce qu'il fallait? Eh bien non. Parce qu'il lui manquait l'humilité. Donc le fait qu'il soit poussé par le repentir montrait que la grâce agissait encore en lui, mais il lui manquait l'humilité. C'est pour ça qu'il va se pendre en désespoir, en signe de désespoir. Il se hait lui-même. Ça nous met sur les lèvres, justement, dans l'office des ténèbres, cette trahison de Judas. Et en particulier, le contraste qu'il y a entre Judas et les autres apôtres. Les apôtres dorment, Saint-Pierre dort, et Judas ne dort pas. Vous n'avez pu veiller une heure avec moi, vous qui vous exhortiez l'un et l'autre à mourir pour moi. Quoi? Vous ne voyez pas que Judas ne dort point, mais qu'il se hâte de me livrer aux mains des Juifs? Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, de peur que vous n'entriez en tentation. Donc c'est le huitième répond du jeudi ou du vendredi saint. Donc ici, ce qui est important, je crois, dans l'histoire de Judas, c'est de saisir, donc il n'est pas devenu mauvais d'un seul coup, c'est qu'il avait au départ une petite passion déréglée, donc un défaut dominant, qu'il n'a pas su combattre. Ce défaut dominant, c'était certainement l'attache à l'argent. C'était donc le désir qu'il avait de voir en notre Seigneur un Messie temporel, donc pour justement essayer d'avoir une bonne place dans ce règne que notre Seigneur venait installer sur la terre. Il voyait qu'à travers ce règne, un règne temporel. Et petit à petit, bien, il s'est laissé, à cause de cette passion de l'argent, avoir, en tombant dans des péchés plus graves. Un autre aspect, alors, qu'on va pouvoir voir dans la passion, après avoir vu cette trahison, notre Seigneur va être conduit, lié à Anne et Caïphe. La cohorte et le tribun et les satellites des Juifs prirent donc Jésus et le lièrent. Et ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Donc Anne était beau-père de Caïphe et était ancien grand prêtre. Le Sanhédrin était composé des anciens grands prêtres. C'était donc le pouvoir suprême, c'était l'autorité officielle de la synagogue. Et vous le savez que les premières minutes après une arrestation sont toujours fondamentales. Et c'est pour cela qu'on confie notre Seigneur à Anne, en raison de son autorité morale, pendant qu'on réunit le Sanhédrin et qu'on cherche un moyen pour faire le procès, finalement, de notre Seigneur. Et on essaie de voir quel argument utiliser pour pouvoir le mettre à mort. Alors le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit: « C'est au grand jour que j'ai parlé au monde. Toujours j'ai enseigné en synagogue et dans le temple, où se rassemblent tous les Juifs, et jamais je n'ai rien dit en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? » Donc notre Seigneur a toujours parlé ouvertement. L'enseignement catholique, c'est un enseignement qui n'est pas ésotérique. C'est un enseignement qui est clair, qui n'est pas caché. Anne, en fait, fait l'hypocrite. Il connaît très bien la doctrine de notre Seigneur et il fait comme s'il ne la connaissait pas. Et notre Seigneur déteste l'hypocrisie. Notre Seigneur aime la vérité. Et c'est pourquoi il pose la question, pourquoi m'interroges-tu? Et en ce moment-là, alors, un soldat donne un coup très fort au visage de notre Seigneur, en disant, c'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? C'est le premier coup que notre Seigneur reçoit dans sa passion. Jésus lui répondit, si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Donc, un rappel de logique, notre Seigneur veut ici éclairer l'intelligence de celui qui vient le frapper. Donc nous-mêmes, soyons vrais. Donc après avoir comparu devant Anne, notre Seigneur va se retrouver devant Caïphe et tout le Sanhédrin. Le Sanhédrin avait pour mission normalement de reconnaître le Messie, c'était sa fonction, et de le faire reconnaître. Donc il devait essayer de lire les textes de la Sainte Écriture, d'interpréter ces textes, pour être capable de recevoir le Messie et de le faire connaître. Mais malheureusement, d'où venait leur aveuglement? Essentiellement de l'attachement des biens de ce monde encore. La plupart des membres de ce Sanhédrin étaient très riches, et ils vivaient dans un luxe effrayant, et finalement leur religion était extérieure. Donc là, ils suivaient avec scrupule leur religion, ça, et il fallait qu'ils fassent toutes leurs prières, comme ils devaient faire. Ils ne savaient pas aller se coucher sans avoir bien terminé leur prière. Mais à côté de ça, ils vivaient d'une façon qui n'était pas digne de notre Seigneur. Ils filtraient le moucheron, ils avalaient le chameau. Cependant, les princes des prêtres et tout le conseil cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvèrent point, quoique beaucoup de faux témoins se fussent présentés. Enfin, il vint deux faux témoins qui dirent, « Celui-ci a dit, « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Donc, face à la mauvaise foi de ceux qui l'interrogent, notre Seigneur se tait. Donc, il n'y a rien à répondre à de faux témoins. Et alors, bien sûr, le grand prêtre est surpris par ce silence de notre Seigneur. Et il se lève et il dit, « Tu ne réponds rien à ce que les hommes disent, déposent contre toi ?» Mais Jésus se taisait. Alors, il est très embarrassé parce qu'il aurait voulu justement que notre Seigneur réponde pour pouvoir prendre notre Seigneur en défaut. Et alors, en ce moment-là, la seule solution qu'il a, c'est de recourir à Dieu pour faire parler notre Seigneur, de prendre Dieu à témoin. Le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Donc il pose la bonne question, parce que c'est la raison pour laquelle notre Seigneur sera mis à mort, parce qu'il a affirmé être le Fils de Dieu. Donc ici, c'est une interrogation solennelle, un acte de la vertu de religion, par lequel on invoque le nom de Dieu pour que l'accusé réponde. Et ici, notre Seigneur ne voit plus que l'autorité de son Père. Per Deum Vivum. Répondez-moi par le Dieu vivant. Notre Seigneur sait très bien que de la réponse qu'il va faire dépend, eh bien, sa mise à mort. Mais notre Seigneur répond tout de suite. Parce que c'est l'autorité de son Père qui est en jeu. Donc, Saint Matthieu, chapitre 26, versets 62-63. Jésus lui répondit, « Tu l'as dit, car je vous le dis, désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Affirme qu'il est bien le Fils de Dieu. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. » Donc le grand prêtre déchire ses vêtements. On verra, c'est un signe d'indignation. Et donc vous retenez ce passage-là parce que, et on va le retrouver d'une autre manière juste après la mort de notre Seigneur. Le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici que vous venez d'entendre le blasphème. Que vous en semble ?» Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Donc la condamnation à mort de notre Seigneur, en fait, c'est ici qu'elle a lieu. Ils ont décidé, ici, les Juifs, la mort de notre Seigneur. Après, c'est Pilate qui va exécuter cette... Mais la mise à mort, c'est bien ici qu'elle a lieu. Donc c'est le refus définitif d'Israël de recevoir le Messie. Alors ils lui crachèrent au visage, ils le frappèrent à coups de poing, d'autres lui donnèrent des soufflets en disant « Prophétise-nous, Christ, qui t'a frappé ?» Et c'est à ce moment-là qu'a lieu le triple reniement de Pierre. Donc Pierre, voyez, Saint-Pierre avait une nature ardente, généreuse. Très vite, il a reconnu la divinité de notre Seigneur. Au moment où notre Seigneur a parlé, par exemple, du sacrement de la Sainte Eucharistie, et que beaucoup d'apôtres ont abandonné en ce moment-là en disant « Comment il va donner sa chair à manger ? C'est l'anthropophagie. » Eh bien, Saint-Pierre dit tout de suite « À qui irions-nous, Seigneur ? Vous avez les paroles de la vie éternelle. » Et puis ensuite, alors, il a confessé la divinité de notre Seigneur en disant « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors, quel est le point faible de Saint-Pierre ? Eh bien, c'est qu'il est trop sûr de lui. Lorsque notre Seigneur marche, il voit notre Seigneur qui marche sur les eaux, alors tout de suite, il a envie d'aller vers notre Seigneur. Il lui demande l'autorisation de marcher sur les eaux. Ce n'est pas tous les jours qu'on a cette occasion. L'occasion à ne pas manquer. « Si c'est vous, commandez que j'aille à vous sur les eaux. »« Viens, dit-il. » Donc le voilà qui se met à marcher sur les eaux. Mais tout d'un coup, après, il réfléchit, parce que c'est toujours comme ça. Quand on est à une nature spontanée, on réfléchit qu'après coup. « Mais qu'est-ce que je fais ? Je marche sur l'eau. » Alors il y a une grosse vague, il craint de s'enfoncer. Et puis du coup, donc, il dit « Seigneur, sauvez-moi. » Et notre Seigneur lui tend la main et puis lui dit « Homme de foi, pourquoi as-tu douté ?» Donc on voit qu'une nature d'un côté généreuse, ardente, spontanée, mais il a trop confiance en lui, pas assez en le Seigneur. Et quand notre Seigneur annonce sa passion, alors pour la première fois, tout de suite, catégorique, il aime trop notre Seigneur. Non Seigneur, cela ne vous arrivera pas. Donc pour lui, notre Seigneur est trop glorieux pour s'humilier à ce point. Et notre Seigneur, en ce moment-là, le reprend vertement. Arrière de moi Satan, à Saint-Pierre, hein, arrière de moi Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles d'un homme. Cette nature spontanée, on la retrouve le jeudi saint. Quand notre Seigneur s'agenouille à ses pieds pour lui laver les pieds, le fait de laver les pieds, c'était un geste que faisaient les esclaves, c'était uniquement les esclaves qui lavaient les pieds, tout de suite, il se rétracte. « Jamais vous ne me laverez les pieds. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Alors lavez-moi non seulement les pieds, mais les mains et la tête. » Vous voyez, on passe d'un excès à l'autre. Et puis ensuite, alors, après la dernière scène, « Où donc allez-vous, Seigneur ?» demande Pierre anxieux. « Là où je vais aller, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Et Pierre d'insister. « Pourquoi ne puis-je pas vous suivre dès maintenant ? Je donnerai ma vie pour vous. » « Ah, Simon, Simon, tu ne sais pas que Satan a reçu licence, car c'est son heure de vous cribler, vous, mes apôtres, de vous secouer comme le froment qu'on épure. Tous vous serez scandalisés cette nuit à cause de moi. » Alors Pierre, en ce moment-là, entreprend de se justifier. « Quand bien même tous les autres seraient scandalisés, à votre sujet, moi, Pierre, je ne serai pas. En vérité, je te le dis, toi, Simon, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté deux fois, tu m'auras renié par trois fois. » Il aurait au moins dû se taire en ce moment-là. Mais non, il veut avoir le dernier mot. « Dussé-je mourir avec vous ? Non, je ne vous renierai pas, Seigneur. » Avec vous, je suis prêt à aller et en prison et à la mort. Notre Seigneur a compris qu'il n'y avait rien à faire, et c'est notre Seigneur qui se tait en ce moment-là. Et cette nature ardente fait apparaître jusqu'au dernier moment. Dès qu'on fait arrêter notre Seigneur, il dégaine et il coupe l'oreille droite du serviteur du grand prêtre. Remets ton épée au fourreau, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Alors en ce moment-là, il comprend que ce n'est plus un combat humain, et du coup, il s'enfuit. Il s'enfuit, mais seulement il a quand même mal au cœur, quoi. Parce que malgré tout, il aime notre Seigneur. Donc il se dit, ben mince, j'ai encore fait une gaffe. Donc il cherche à se rapprocher, il veut voir un peu comment que ça se passe. Et puis c'est là qu'a lieu le triple reniement en voyant une servante. Et la troisième fois, c'est pire. Vous voyez qu'il y a toujours un degré dans le péché quand on ne fait pas, quand on n'arrête pas tout de suite. La troisième fois, on dit... Il se mit alors à faire des imprécations et à dire sous serment, donc il prend Dieu à témoin, qu'il ne connaît pas notre Seigneur. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Donc, deuxième chant du coq. Et le Seigneur, se retournant, ça c'est très beau, regarda Pierre. Pierre se souvint de la parole de notre Seigneur, avant que le coq n'ait chanté deux fois, tu m'auras renié trois fois. Pierre étant sorti alors, il pleura amèrement. Donc, oui, ça a été une grande humiliation qui l'a conduit à l'humilité. Et on voit comment notre Seigneur, qui a accepté d'être renié trois fois par Saint-Pierre, va exiger maintenant, en signe de réparation, un triple acte d'amour. Notre Seigneur nous a dit « La charité couvre une multitude de péchés. » On vous a beaucoup parlé de la charité pendant cette retraite. Le moyen de réparer le péché, le moyen par excellence, c'est la charité. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Alors, qu'est-ce que va répondre en ce moment-là Saint-Pierre? Si ça avait été avant la passion, il aurait dit, bah oui, bien sûr, je vous aime beaucoup plus que les autres. Maintenant, il se contente de dire, Seigneur, vous savez tout, vous savez que je vous aime. Et notre Seigneur dit, paix mes agneaux. Et puis ensuite, paix mes brebis. Tu m'aimes? Eh bien, fais ton devoir d'État. Tu es pape, tu dois paître les brebis, tu dois donner la nourriture aux âmes que je te confie. C'est là ta mission. Donc, le signe que nous aimons Dieu, c'est le signe que nous sommes fidèles à notre devoir d'État. C'est la meilleure manière de réparer ce qui, dans notre vie, a pu déplaire à Dieu. Ensuite, notre Seigneur donc, va paraître devant Pilate, je passe, puis il est envoyé à Hérode. Juste cet aspect-là, on peut le voir si vous voulez, parce que c'est plus court. Ayant appris que Jésus était de la juridiction d'Hérode, Pilate le renvoya à Hérode, qui était aussi à Jérusalem en ces jours-là. Luc chapitre 23, verset 7. Donc Hérode, c'est celui qui a condamné à mort Saint Jean-Baptiste. Concubinage. Il trafique avec les Romains, il est toujours prêt à se faire bien voir par eux. Et selon l'historien Flavius Joseph, il a quand même une certaine religiosité. C'est pour ça que dans la prison, il aimait bien parler avec Saint Jean-Baptiste. Notre Seigneur, par contre, l'appelle le renard. Allez dire à ce renard, j'ai encore à chasser les démons, à rendre la santé aux malades aujourd'hui et demain. Saint Luc, chapitre 13, verset 31. Alors, quant à la passion, alors maintenant, regardons ce qu'il est dit d'Hérode. Hérode, voyant Jésus, en eut une grande joie, car il désirait depuis longtemps le voir, parce qu'il avait entendu dire beaucoup de choses de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui adressa donc de nombreuses questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Donc, Hérode veut un miracle, mais par curiosité. Ce n'est pas par désir de croire, ce n'est pas du tout la foi qui l'anime, mais une simple curiosité. Et notre Seigneur ne dit pas un seul mot. Donc cette leçon est très importante parce qu'on voit comment est-ce qu'il a trop péché contre la grâce. Il a fait taire la voix de Dieu pour plaire à sa concubine. Et le silence de notre Seigneur est ici le châtiment de Dieu. Et c'est très important parce que ça nous montre qu'il faut prendre la grâce quand elle passe. La grâce d'Hérode, c'était Saint Jean-Baptiste. Il lui a coupé la tête, et bien maintenant le Seigneur se tait. Or, Hérode, avec ses gardes, le méprisa, il se moqua de lui en le revêtant d'une robe blanche, puis il le renvoya à Pilate. Hérode et Pilate, d'ennemis qu'ils étaient, devinrent amis. L'union de la médiocrité face à l'innocence. Ensuite, il faudrait voir aussi, parmi les douleurs morales de notre Seigneur, le fait d'être mis au même rang que Barabbas. Or, le jour de la fête, le gouverneur avait coutume de délivrer un prisonnier, celui que le peuple demandait. Il avait alors un prisonnier ainsi nommé Barabbas. Saint Marc donne des précisions. Il nous dit que Barabbas avait été emprisonné avec avec des séditieux pour un meurtre qu'il avait commis dans une émeute. On n'a pas fait le tour du personnage. Saint Jean nous dit que c'était un pillard. Donc un pillard, un criminel. Et notre Seigneur est mis sur un pied d'égalité donc avec ce pillard et avec ce criminel, qui est, nous disent les évangélistes, un prisonnier insigne. Insigne, c'est-à-dire connu et redouté. Si Pilate joue cette carte, c'est parce qu'il a reconnu l'innocence de notre Seigneur. Et il se dit en lui-même, que faire pour délivrer notre Seigneur? Que faire pour que je puisse me tirer de ce mauvais pas? Je trouve une solution, Barabbas. Si je leur présente Barabbas, ce criminel, ben, certainement qu'ils demanderont qu'on délivre notre Seigneur. Des prêtres vont influencer la foule. C'est là qu'on voit encore aussi comment la foule est versatile. Et elle se laisse influencer, si bien que tous crièrent ensemble, « Fais mourir celui-ci et délivre-nous Barabbas. » Donc, nouvelle souffrance pour notre Seigneur, déjà d'être mis au même rang que Barabbas, et ensuite qu'on préfère Barabbas à lui-même. Pilate leur parla de nouveau, voulant délivrer Jésus. Mais il criait plus fort, disant, « Crucifie-le, crucifie-le. » Il leur dit une troisième fois, « Mais quel mal a-t-il fait? Je ne trouve en lui rien qui mérite la mort. » Et voyez la logique du libéral. « Je vais donc le châtier et je le renverrai. Je vois rien de mal en lui, alors je vais le châtier. Je vais le châtier pour vous faire plaisir et puis ensuite je vais le délivrer. » Mais ils insistaient à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leur clameur redoublait. Alors Pilate ordonna que ce qu'il demandait fût exécuté. Oui, on ne peut pas tout voir, je suis désolé. Donc après a lieu la flagellation, le couronnement d'épines. C'est peut-être des passages que vous connaissez mieux. Notre Seigneur ensuite est cloué sur la croix. Là, il y a un aspect qu'on peut voir lorsque notre Seigneur est sur la croix, parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire attention à ce passage, c'est de voir l'attitude des personnes qui assistent, qui sont présents à la crucifixion et qui sont là au pied de la croix. Et les passants le blasphémaient, branlant la tête et disant, « Allons, toi qui détruis le temple de Dieu et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les princes des prêtres se moquaient aussi de lui, avec les scribes, les anciens, et disaient, « Il en a sauvé d'autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Donc le pire, certainement, sur toutes ces souffrances, ça a été cette phrase de notre Seigneur, qui était prononcée contre notre Seigneur. « Il a confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. » Donc c'est une provocation cruelle parce qu'elle touche les rapports entre le Père et le Fils. C'est le blasphème qui atteint la Sainte Trinité. « Il a confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. » Mais deux aspects qui apparaissent quand même. Le premier, c'est « Il a confiance en Dieu. » Donc derrière la moquerie, on peut voir un bel aveu de la vie spirituelle de notre Seigneur. Il s'est toujours confié à son Père. C'est ce que disent ici les princes des prêtres. « Qui le délivre maintenant s'il l'aime. » Parce que le crucifié était, selon la Sainte Écriture, dans le livre du Deutéronome, maudit de Dieu. Donc, s'il est crucifié, eh bien, Dieu ne peut que le délivrer. C'était ce que se disaient les princes des prêtres. Saint Thomas explique qu'il y a deux types de malédictions. Il y a la malédiction de la faute et la malédiction de la peine. Si notre Seigneur apparaît comme maudit de Dieu sur la croix, ce n'est bien sûr pas qu'il serait maudit de Dieu le Père en lui-même, mais c'est en tant qu'il représente le péché. Donc notre Seigneur ne s'est pas fait pécheur. Notre Seigneur n'était pas pécheur, mais saint Paul dit que notre Seigneur s'est fait péché pour nous. Donc dans la mesure où il représente le péché, il porte la malédiction due à nos péchés, donc malédiction de la peine. Et c'est là la réalisation d'un verset du psaume 21, ce psaume 21, comme je vous ai dit, qui est le psaume de la Passion, où on trouve ces mots-là. « Il a espéré dans le Seigneur qu'il le sauve, s'il l'aime. De même, les voleurs qui avaient été crucifiés avec lui lui adressaient les mêmes outrages. Et ça nous montre aussi la cause de la mort de notre Seigneur, toutes ces phrases. Parce qu'on imagine les sentiments de notre Seigneur en entendant ses passants, en entendant les princes et prêtres, en entendant les voleurs, bien que l'un ensuite va changer d'attitude. Notre Seigneur est mort d'amour, le cœur brisé, et il est mort de chagrin. Maintenant, les dernières paroles de notre Seigneur sur la croix. Or, depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Donc ici, comme nous l'avons dit en parlant des psaumes, notre Seigneur prie avec les prières liturgiques de l'époque. C'est le premier verset du psaume 21. C'est un cri d'espérance, puisque comme on l'a dit, la fin de ce psaume décrit tout le salut de nos âmes, l'ouverture du salut à toute l'Église et le salut des âmes. Après cela, sachant que tout était accompli, afin que l'Écriture fût accomplie, afin. Donc les crucifiés avaient une soif ardente parce qu'ils étaient déshydratés. Et notre Seigneur n'était plus que quiconque, vu tout le sang qu'il avait perdu entre son agonie et puis les autres sévices qu'il a dû endurer. Et s'il avait soif, donc physiquement, il avait encore plus soif du salut de nos âmes. C'est ce que dit saint Augustin. « Sitis tua salus mea »« Votre soif, c'est mon salut ». Et aussitôt, l'un d'eux, accourant, prit une éponge et la remplit de vinaigre. Et l'ayant attaché à un roseau, il lui donnait à boire. Donc il l'a rempli de vinaigre. Donc c'est en fait un mélange d'eau et de vinaigre. Il s'agit probablement de produits qui servaient pour nettoyer les instruments de supplice. Donc ici, ce n'est pas un geste de compassion, mais plutôt de méchanceté qui apparaît. Bu de la passion, on voit qu'on a voulu donner à boire à notre Seigneur, mais là c'était dans le but de soulager un peu ses souffrances, c'est ce qu'on faisait toujours pour les crucifier, et là au contraire notre Seigneur n'avait pas voulu boire. Mais je ne retrouve plus le passage. Si, ça y est, c'est là. Donc le verset que je viens de vous citer ici en saint Matthieu, c'est Saint Matthieu chapitre 27, verset 48. Donc, aussitôt l'un d'eux en courant prit une éponge et la remplit de vinaigre, et l'ayant attaché à un roseau, il lui donnait à boire. Et le premier passage, alors, où il était fait mention qu'on avait donné à boire à notre Seigneur, qu'on avait voulu lui donner à boire, c'était le même chapitre de Saint Matthieu, mais le verset 34. Et là, il était dit, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Donc il a refusé le vin myrrhé qu'on lui proposait, comme on le faisait pour tous les crucifiés, en guise d'analgésique, c'est-à-dire dans le but de soulager les souffrances de notre Seigneur. Mais par contre, il accepte une mauvaise eau qui lui est proposée après, donc il boit une offense de plus. Et cette interprétation est confirmée par un autre psaume, le psaume 68, le verset 22, où il est dit « Dans ma soif, ils m'ont donné du vinaigre à boire ». Ensuite, notre Seigneur, sixième parole sur la croix, « Tout est accompli ». C'est ici un cri de victoire. Notre Seigneur a accompli toutes les prophéties, tout ce qui le concernait. Saint Jean, chapitre 19, verset 30. Et criant d'une voix forte, Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre vos mains. Saint Luc, chapitre 23, verset 46, c'est la dernière parole. Il semblerait que le cri de notre Seigneur se rapporte davantage à la sixième parole qu'à la septième. Et ce cri est étonnant. Il est étonnant en lui-même parce que ceux qui mouraient crucifiés, ils mouraient asphyxiés. Et donc, ils ne pouvaient, pour ainsi dire, pas prononcer une seule parole. Et le fait que notre Seigneur pousse un cri et meurt juste après, c'est le signe qu'il n'est pas un homme comme les autres, c'est le signe qu'il est Dieu. Et c'est ce qui va convertir, comme on le verra après, le centurion. Ce cri de notre Seigneur montre qu'il n'est pas un supplicié comme un autre. Le centurion, qu'on en a vu d'autres passer, n'a jamais vu ça. Il n'a jamais rencontré un supplicié être capable de pousser un cri avant de mourir. Donc notre Seigneur a voulu par là montrer que c'est librement qu'il nous donne sa vie. Il donne sa vie quand il veut. Mais c'est moi qui la donne. Et alors la dernière parole, justement, c'est une parole paisible. Je remets mon âme entre vos mains. Elle est pleine de douceur, pleine d'esprit filial. Et c'est donc les deux aspects qu'il faut douceur en méditant la passion de notre Seigneur. Réaliser que notre Seigneur est pleinement homme, en tant qu'homme, il a porté sur lui le poids de toutes nos souffrances, mais en même temps, s'il a été accablé toutes les souffrances physiques, morales et même d'une certaine manière spirituelle, il a gardé confiance en Dieu son Père. Et il a mérité que nous puissions garder confiance au milieu de nos épreuves. Et le fait qu'on dise qu'il rendit l'esprit montre qu'il s'agit d'une mort douce. Et en même temps, le fait de rendre son esprit, on le dépose en quelque sorte, ça veut dire qu'on en est maître, et ça veut dire que notre Seigneur est Dieu. Saint Jérôme dit, rendre son esprit est un signe de la puissance divine. Et un mot des effets de la passion, c'est très important, en analysant la passion, de ne jamais oublier de voir les effets. Le temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les pierres se fendirent. Donc, prodige qui apparaît ici, le voile qui se déchire. Dans le temple, ce voile séparait le saint du saint des saints. Le saint des saints, donc, c'était le lieu où se trouvait Dieu, en fait. Et jusqu'ici, Dieu apparaissait caché dans le Saint des Saints. Le prêtre n'y pénétrait qu'une seule fois par an, avec le sang, justement, avec lequel il aspergeait l'autel, montrant d'ailleurs que c'est par le sang que notre Seigneur nous a rachetés. Et donc, ce lieu indiquait la présence de Dieu. Maintenant, le voile se déchire. Ça veut dire que Dieu n'est plus inaccessible, il devient notre Père. C'est la fin de l'ancienne alliance, c'est l'apparition de la nouvelle alliance. D'où la parole de notre Seigneur le jeudi de Pâques à Sainte Marie-Madeleine, « Je m'en vais vers mon Père et votre Père ». Par ailleurs, le voile du temple symbolise en quelque sorte le vêtement de Dieu le Père. Si Dieu le Père est présent dans le Saint des Saints, la limite de cette présence, c'est ce voile. Et donc ce voile symbolise en quelque sorte le vêtement de Dieu le Père. Et donc ce voile qui se déchire désigne la réponse de Dieu le Père à la mort de son Fils. De la même manière que le grand prêtre a tout à l'heure déchiré son vêtement en signe d'indignation, ici Dieu le Père déchire son vêtement en signe de deuil, selon ce qui se faisait dans la loi de l'Ancien Testament. C'est donc ici la première intervention de Dieu le Père depuis le début de la Passion. Ensuite, la terre tremble, les rochers se fendirent. Donc ce sont des miracles physiques qui apparaissent. Intervention de la divinité à nouveau. Et à ces miracles physiques, il faut ajouter la conversion des âmes, miracles moraux. Le centurion qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré en poussant ce grand cri, dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Donc vous voyez, le centurion indique ici le lien qu'il y a entre le grand cri et le fait que notre Seigneur est le Fils de Dieu. Voyant qu'il avait expiré en poussant ce grand cri, dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Il dit plutôt « Fils de Dieu » que le « Fils de Dieu » d'ailleurs, mais bon, ça c'est une... Mais enfin, c'est important de le dire. Parce que... Ensuite, miracle moral encore, que ce courage de Joseph d'Arimathie qui rentre avec audace chez Pilate, à Audacter. Alors que jusque-là, il n'apparaissait pas, il avait peur. Tous les apôtres avaient peur, ils ont tous abandonné notre Seigneur, à part Saint Jean. Et là, maintenant que notre Seigneur vient de mourir, eh bien, il y a une force qui apparaît en eux. Miracle moral encore, que la réaction de la foule elle-même. Saint Luc précise, toute la foule qui assistait à ce spectacle et qui voyait ce qui se passait, s'en retournait en se frappant la poitrine. En se frappant la poitrine, signe de conversion. Donc les fruits de la passion apparaissent par les prodiges, apparaissent par la conversion des âmes, apparaissent encore par les sépulcres qui vont s'ouvrir et les résurrections des corps qui vont s'en suivre. Les sépulcres s'ouvrirent et beaucoup de corps de saints qui s'étaient endormis ressuscitèrent. Donc cette résurrection des corps qui apparaît juste après la mort de notre Seigneur montre comment la mort de notre Seigneur nous ouvre la porte du ciel. Cette résurrection est semblable à celle de Lazare, donc ceux qui sont ressuscités ce jour-là ont eu le privilège de mourir une deuxième fois. Et en préambule à tous ces effets merveilleux, il y a eu sur la croix la conversion du bon larron. Conversion du larron qui n'était pas bon à ce moment-là. Or, l'un des voleurs, suspendu en croix, blasphémait en disant « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous avec. » C'est ce qui est marqué. Et nous. Mais l'autre le reprenait en disant, toi non plus, tu ne crains donc pas Dieu, toi qui es condamné au même supplice. Encore pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos œuvres, mais celui-ci, il n'a rien fait de mal. Remarquez bien, quand on regarde toute la passion de notre Seigneur, le nombre de personnes qui reconnaissent l'innocence de notre Seigneur et qui visiblement n'auraient pas été porté naturellement à reconnaître cette innocence. Le larron, Pilate, Judas, qui dit au moment où il jette l'argent, il reconnaît à nouveau, j'ai péché en livrant le sang de ce juste, le centurion. Et le larron ici accepte sa mort comme châtiment de son péché. Il ira droit au ciel. Donc il sera voleur jusqu'au bout, vous voyez, il a volé le ciel. Seigneur, souvenez-vous de moi lorsque vous serez arrivé dans votre royaume. Dans votre royaume, il reconnaît la royauté de notre Seigneur. En vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc ces paroles nous encouragent à méditer cette passion en voyant à la fois comment notre Seigneur est vraiment homme, et donc en tant qu'homme, il peut vraiment nous comprendre, quelles que soient nos souffrances. Et en voyant ensuite les effets de cette souffrance qui également nous encourage à voir au-delà de la croix la résurrection. Le vendredi saint est suivi du matin de Pâques. Et n'hésitez pas vous-même à vous pencher sur ces passages d'évangile, notamment pendant le temps de la Passion, chaque année, pour essayer d'approfondir et de voir à travers tous les détails qui sont donnés, de mieux connaître notre Seigneur, et de mieux s'unir à sa passion pour pouvoir participer un jour à sa glorieuse résurrection.